Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de MQTT avec Renaud Lichitz. Bonjour Renaud.
Bonjour.
Et pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Christophe Renard.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Hulot. Alors Renaud, quand on parle de MQTT, on parle de quoi ?
C'est pas une voiture déjà, pour préciser.
MQTT, c'est un protocole réseau qui est apparu, qui a surtout été développé, on va dire, depuis la flambée de l'Internet des objets. Hein. C'est un protocole qui est un peu plus ancien que ça à la base, mais qui est beaucoup utilisé avec l'IoT. Pourquoi ? En fait, c'est un protocole qui permet d'envoyer et de recevoir des messages en flux continu, donc en streaming. Autrement dit, on va avoir des objets qui vont produire des messages, souvent des mesures, et puis d'autres objets qui vont les consommer. Donc on va parler de producteurs d'informations et de consommateurs. Et entre les deux, donc on va avoir un serveur MQTT, donc qui va recueillir ces messages produits et les distribuer aux bons interlocuteurs, aux bons consommateurs.
Mais ça, c'est vieux comme le monde, non ? Il n'y avait pas un truc Microsoft qui s'appelait MSMQ, qui avait été l'objet de failles au début des années 2000, qui faisait déjà ça ?
Oui, il y a d'autres protocoles concurrents, mais qui sont un peu plus lourds, hein, ou un peu moins scalables que MQTT. MQTT est relativement scalable, et c'est pas mal développé avec les infrastructures cloud, et puis les infrastructures Node.js, par exemple.
Ah non, mais il y a aussi des protocoles années 90, beaucoup, beaucoup plus lourds, style Corba, qui font la même chose.
Oui, mais c'est Corba, c'est 1-1. Là, on est sur du N-N, hein, potentiellement, en termes d'échange d'informations. On peut avoir N producteurs reliés à N consommateurs. Et puis, on n'est pas sur un protocole de sérialisation, mais bien un protocole de transport, là, pour le coup. De transport distribué, même, pour être plus précis.
Mais c'est plus comparable à MQ ou à MQS, qui étaient des protocoles de messagerie qu'on trouve dans les applications, qui sont effectivement pas comme Corba, des appels de fonctions à distance, mais de l'envoi de messages en asynchrone.
C'est quand même plus Series.
Ouais, tout à fait. Tout à fait.
Series, hein.
C'est issu de MQ.
Mais on est revenu au mainframe, alors.
Et ça veut dire message queuing, télémétrie, transport. Donc il s'agit de transporter des messages. Et on n'est pas sur des liaisons 1-1, on n'est pas sur de la sérialisation d'informations non plus. Donc on peut envoyer des messages, d'ailleurs très très gros, hein, de plusieurs mégas. On peut envoyer des images ou des vidéos, c'est tout à fait possible. On n'est pas limité à des messages texte ou à des messages d'une structure connue et unique.
Et qui est derrière ce protocole ? Il a été inventé où ? Est-ce que c'est standard RFC ou est-ce que c'est un protocole IBM qui est tombé dans le domaine public ?
C'est un standard Oasis, hein, donc qui est développé par un consortium d'industriels, mais qui est quand même standardisé, avec, ceci dit, plusieurs versions. Et puis on parlera éventuellement des problèmes d'incompatibilité qui sont dus au manque de sécurisation et aux tentatives de sécurisation du protocole.
Alors, ce protocole, il date de quand ?
Alors, le protocole en lui-même est un petit peu ancien, il date de 1999, mais il a été standardisé que tout récemment par l'Oasis, en 2013, par un consortium d'industriels.
Et aujourd'hui, c'est quoi le statut ? Il y a une implémentation de référence qui est fournie par Oasis et que tout le monde utilise, ou est-ce qu'il y a vraiment de la concurrence dans les implémentations ? Parce que en matière de protocole, je sais pas, si on prend JPEG, par exemple, la libjpeg, c'est la référence et aucune autre implémentation n'est capable de lire une image générée avec libjpeg 6, par exemple.
Il n'y a pas d'implémentation standard de référence, il me semble. Par contre, il y a deux, trois grandes implémentations qui se partagent le marché. Il y a Eclipse, hein, notamment, qui est très producteur de code open source pour l'IoT, avec son produit Mosquito, qui fournit une grosse partie des softs MQTT, que ce soit les clients ou les serveurs. Et RabbitMQ, qui est aussi un serveur de streaming, mais qui est multiprotocole, hein, donc il va savoir gérer MQTT avec un greffon. Mais sinon, à la base, il gère de la MQP et du Stomp, hein, qui sont d'autres protocoles de streaming de messages.
Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'utilisation ?
Alors, il y en a beaucoup. Si on pense à la domotique, énormément de protocoles domotiques qui sont basés sur MQTT pour faire de la remontée d'informations de capteurs à domicile vers des clouds, des fournisseurs de solutions domotiques. Sinon, dans l'industrie, c'est pas mal utilisé dans la logistique. On a besoin de faire du suivi de colis ou de palettes en temps réel. Donc, on a des messages en streaming au fur et à mesure que les colis défilent sur un tapis ou dans un portique. Dans le transport, dans le milieu de l'énergie, on a des compteurs connectés qu'on va pouvoir, des compteurs électriques connectés, les smart meters qu'on va connecter en MQTT. Et puis, dans le domaine de la sécurité et de la surveillance plus globalement.
Avant de parler d'un exemple d'utilisation, Vlad, tu voulais rajouter des choses sur IBM ?
Non, mais juste que IBM a participé à une des versions récentes d'MQTT.
L'Oasis, c'est un peu l'endroit où IBM vient, prend des protocoles simples et en fait des trucs imbitables. Tous les protocoles XML horribles, tu prends XML RPC, t'en sors soap, quoi.
C'est pour ça que c'est les spécialistes des gateways XML.
Bah ouais.
Bon, on avait fait un peu le tour des exemples. Que dire ? Mais quelquefois, en fait, on substitue MQTT à XMPP aussi pour faire du flux de messages. Mais les infrastructures XMPP sont beaucoup moins scalables, parce qu'on va pas pouvoir empiler des couches de serveurs XMPP comme on peut empiler des couches de serveurs MQTT pour faire de la répartition de charges.
Pourquoi on n'utilise pas IRC ? Ça me semble fonctionner pareil.
Alors,
sérieusement, il n'y a pas des botnets qui utilisent XMPP, qui utilisent MQTT comme canal de CNC ? Ça semble complètement adapté.
Oui, probablement. On pourrait probablement passer d'ailleurs par des serveurs publics MQTT, puisqu'il y en a pas mal qui existent. Y a IoT.eclipse.org, par exemple, qui est un des plus gros serveurs publics. Et là, n'importe qui peut pousser une information et la consommer. On a un serveur de test chez Mosquito, chez RabbitMQ qui est une boîte commerciale, IVMQ qui est une boîte commerciale, et sur RabbitMQ qui est un produit open source. Donc les serveurs MQTT publics, il y en a, effectivement ça pourrait servir de base à des botnets, puisque le principe du botnet c'est effectivement des remontées d'informations et puis des redescentes. Il y a une petite particularité d'MQTT qui fait que c'est un peu plus facile à utiliser qu'IRC. Ou XMPP, c'est que en même temps qu'on envoie le message, en fait, il y a une donnée qui est obligatoire, qui est l'envoi d'un sujet. Donc on va envoyer un sujet et un message. En fait, ce sont des couples d'informations qu'on envoie. Autant le message, il peut être quelconque, binaire, vidéo, image, ce qu'on veut. Autant le sujet, ça doit être un texte, et ça prend la forme d'une arborescence, c'est-à-dire que on a un sujet, slash un sous-sujet, slash un sous-sous-sujet, etc. Et on va pouvoir filtrer en fait les données qui nous intéressent quand on est un consommateur de données. Donc je peux dire, je veux tout ce qui concerne le sujet et ses le sujet 1 et ses sous-sujets, ou le sujet 2 et ses sous-sujets, et pouvoir faire du filtrage à n'importe quel niveau de l'arborescence avec des jokers. Donc des jokers, il y a le plus pour le joker un seul niveau, ou le dièse, qui est un joker multiniveau, ce qui permet de s'abonner à des flux de subscription temps réel. Donc c'est un peu du RSS temps réel, et on va avoir une certaine sélectivité quand on est client pour choisir l'information qui nous intéresse, parce que très souvent on a des milliers de messages à la seconde, donc on va éviter de consommer de la bande passante, et un certain type de message peut nous intéresser, et on va faire cette sélectivité donc avec des jokers, et les sujets auxquels on s'abonne prennent vraiment la forme d'arborescence, et donc on va préciser à quel niveau d'arborescence on se situe avec ces jokers.
C'est NNTP, quoi. C'est un protocole de news. Mais juste pour terminer sur le protocole, c'est quoi ? Est-ce qu'il est agnostique sur la couche de transport, ou est-ce que c'est du DP, c'est du TCP ? Il y a un port par défaut qui est assigné à l'IANA ou...
Ouais, c'est du TCP avec un port par défaut 1883 pour le MQTT classique, et on a évidemment un port aussi par défaut assigné pour le MQTTS, qui est la version SSL du protocole. Mais sinon, ça fonctionne sur du TCP.
Oui, donc c'est pas non plus hyper hyper scalable. Si tu veux accepter des millions de connexions, comment tu fais ? Est-ce que les clients restent connectés en permanence ou est-ce qu'ils font du polling toutes les secondes par exemple ?
Justement, il n'y a pas réellement de mécanisme de polling. On est sur du push pour que ça soit léger en termes de trafic réseau. Et c'est scalable dans le sens où on peut empiler plusieurs couches de serveurs MQTT qui gèrent chacun des topics différents.
Ce que je veux dire, c'est que moi, en tant qu'alarme domotique qui doit faire un reporting toutes les minutes sur l'état des volets roulants, est-ce que je garde la connexion TCP ouverte ou est-ce que je me reconnecte toutes les minutes ?
Non, elle reste ouverte, hein, mais il n'y a pas de polling à faire. Hein. C'est du push qui est fait. Mais traditionnellement, donc les infras MQTT, les grosses infras, il n'y a pas que un serveur. Et il va y avoir des strates de couches, comme des réseaux de neurones, en fait, des strates de couches de serveurs MQTT pour faire de la répartition de charge et pour gérer les différents sujets, des souscriptions en fait, des consommateurs et des producteurs.
Mais si tu as un sujet qui concerne énormément de machines, comment ça se passe ? Parce que si la socket reste ouverte, comme le disait Nico, tu vas être quand même limité à un petit nombre de machines, on va dire.
Bah, ça passera par plusieurs serveurs. Donc chaque client reste sur son serveur d'origine, on va dire, et ce serveur-là fera relais des autres serveurs MQTT.
Mais il envoie un redirect ou comment ça se passe ?
C'est pas clair, il y a une répartition de charge intégrée au protocole ?
Ça permet par sélectivité des sujets de répartir les sujets sur différents serveurs et différentes couches de serveurs.
Il faut penser serveur de mail ou serveur de news avec de la propagation.
Mais ça veut dire qu'un sujet particulier, tu ne peux pas le sous-découper sur plusieurs serveurs ou grappes de serveurs ?
Bah, potentiellement, il y a plusieurs serveurs MQTT qui vont être abonnés à ce sujet-là pour le retranscrire à leurs clients, qui sont eux-mêmes abonnés. Mais si un serveur ne reçoit aucun abonnement à un sujet en particulier, il ne va pas servir de relais sur ce sujet-là.
Et c'est une architecture ouverte ou... N'importe qui peut ouvrir des serveurs.
Oui, complètement. Complètement.
Comment marche la découvrabilité ? Est-ce qu'il y a des annuaires de service, des trucs comme ça ? Ou est-ce qu'il faut connaître le sujet explicitement pour pouvoir s'y abonner ?
Alors, il n'y a pas de protocole, à ma connaissance, de découvrabilité des serveurs. Mais après, on peut très bien envisager de faire du swarm, par exemple, Docker Swarm, pour faire des grappes, des clusters de serveurs MQTT. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Pour la découvrabilité, soit on connaît les sujets qui nous intéressent, soit il existe... en fait, il y a un joker universel qui est le dièse, hein, qu'on peut placer au premier niveau d'arborescence. Donc en fait, on peut s'abonner au sujet dièse, et le sujet dièse est universel, c'est un joker multiniveau. Donc du coup, on va recevoir toutes les subscriptions auxquelles le serveur a accès. On va pouvoir lister l'ensemble des sujets et des messages... qui transite par ce serveur-là. On a un autre sujet qui est un petit peu particulier, qui est le sujet $6, qui va renvoyer plein d'informations techniques sur le serveur. Par exemple, le nombre de messages qui transitent, qui sont en upload, en download sur le serveur, le nombre de clients connectés, la mémoire disponible, etc., etc. Donc, tout plein d'informations techniques assez intéressantes avec ce sujet un peu particulier qui est $6.
C'est standard Oasis ou c'est juste l'implémentation la plus courante qui l'utilise ? Le $6, si tu veux être compatible avec le standard, t'oblige à renvoyer des informations de serveur.
Alors, c'est les implémentations classiques. Je pense pas que ça soit dans le standard lui-même. J'ai pas étudié la question. Les implémentations classiques, en général, l'implémentent, mais c'est pas du tout obligatoire pour des raisons de compatibilité avec les clients, en tout cas.
Vlad, tu voulais intervenir ?
C'est une petite question, en fait, pour essayer de comparer ça. Ça ressemble finalement un petit peu à du multicast, mais un tout petit peu plus haut niveau, c'est ça, non ?
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, multicast, on va diffuser l'information à que ceux qui se sont intéressés préalablement à cette information et qui s'y sont abonnés. Okay. Et on est sur du flux temps réel, effectivement, sur une sélection de clients.
Moi qui suis plus vieux que Vlad, je trouve que ça ressemble aussi furieusement à un NTP avec des serveurs qui propagent ou pas des sujets et des gens qui s'abonnent à un serveur et des sujets locaux et des sujets partagés.
Oui, avec cette notion qu'il n'y a pas de polling, contrairement à un NTP où il faut venir aller chercher les messages. Là, ils sont envoyés en push au client. Il n'y a pas d'effort côté client pour récupérer ces messages.
Bon, mais comment ça marche au niveau sécurité? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des ACL, etc. Tout le monde ne peut pas lire les boîtes aux lettres de tout le monde, non?
Alors, c'est là que c'est amusant, parce qu'effectivement, il y a des mécanismes de sécurité. Il y a possibilité de mettre de l'authentification par login mot de passe sur les serveurs. Il y a possibilité de mettre du chiffrement sur la couche de liaison, puisqu'on peut faire du SSL. Par contre, il y a très peu de choses en termes de ségrégation des clients. Notamment une fois qu'on est authentifié, il y a peu d'implémentations qui permettent de choisir pour certains sujets une authentification et pour d'autres sujets une autre authentification. C'est on est authentifié sur le serveur ou non. Et une fois qu'on est authentifié, on peut aller s'abonner à n'importe quel sujet. Voire même, sur pas mal d'implémentations, il n'y a pas de ségrégation entre être abonné ou pousser un message, et donc dès qu'on peut s'y connecter, on est à même aussi de pousser des messages qui peuvent être des messages du coup non légitimes, puisqu'il suffit de reprendre un sujet qui existe et de pousser un message avec ce même sujet, et on va pouvoir usurper du coup l'émetteur réel du message, et tous les clients qui seront abonnés à ce flux-là verront une information erronée.
D'accord, donc il n'y a même pas de différence entre read-only et read-write, quoi.
Voilà, sur la plupart des implémentations, c'est assez confus. Soit on est authentifié, soit on l'est pas. Soit on est en TLS, soit on l'est pas. Et soit on est connecté, soit on l'est pas. Mais dans le cas où on est connecté, effectivement, on peut à la fois souscrire et pousser de l'information, ce qui pose un certain nombre de problèmes de sécurité, bien évidemment. D'autant que avec des outils comme Shodan, on trouve des milliers de serveurs MQTT qui sont ouverts sur Internet, avec des usages tous plus variés les uns que les autres. Si on parcourt rapidement le type d'informations qu'on peut trouver qui sont souvent accessibles, il y a plein de capteurs, hein, des capteurs de température, d'hygrométrie, de vent, de la domotique, hein, des gens qui jouent avec leurs Arduino et qui connectent ça à des serveurs MQTT publics ou alors des serveurs MQTT privés mais sans authentification, donc du coup ils se retrouvent exposés sur Internet aussi très facilement.
Oui, mais ces serveurs qui sont accessibles publiquement, c'est fait exprès qu'ils soient accessibles publiquement.
Alors c'est en partie fait exprès, sauf que il y a des serveurs, comme on disait, de test ou de prototypage. Et très souvent, les développeurs, une fois qu'ils jouent dans des bacs à sable, pendant qu'ils jouent, ils vont émettre un certain nombre d'informations plus ou moins sensibles vers ces bacs à sable publics où tout le monde peut le lire. Et très souvent, pour des raisons de simplicité, ils vont pas déployer eux-mêmes leur serveur MQTT, ou alors ils vont utiliser le même login mot de passe pour tout leur périphérique. Et tous leurs périphériques vont avoir un login mot de passe hardcodé, ce qui fait qu'au final, le serveur, il est exposé publiquement aussi.
Oui, enfin, ça, c'est normal. Là, tu parles de développeur.
Oh.
Mais là, quand on parle d'objets connectés, il y a beaucoup d'objets connectés qui ont des logins mot de passe MQTT, et c'est évidemment le même login mot de passe sur toute la flotte d'objets connectés. Donc, il suffit d'aller sur un objet, extraire en mémoire le login mot de passe, et on se retrouve sur la grappe d'objets connectés à pouvoir lire l'ensemble des messages et pouvoir émettre comme un objet connecté une fausse donnée.
Oui, écoute, moi qui suis ancien, j'ai connu les PABX avec le même login mot de passe dans tous les PABX. Donc si tu veux, je vois vraiment pas qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Continuité.
Mais il y a pas mal d'exemples où il n'y a pas d'authentification, Renaud.
Ah oui, il y a un petit coup sur Shodan, hein, en tapant juste MQTT ou port 1883, et on voit qu'il y a énormément d'exemples, y compris d'ailleurs des exemples de services grand public, hein, d'objets connectés grand public ou de services grand public, qui se font sur des serveurs publics sans authentification. Typiquement, il y a une application pour smartphone, dont je tairai le nom, mais qui permet, à la manière de IFT, quand vous êtes proche de votre domicile ou quand vous êtes proche du boulot, de faire des actions, d'envoyer des mails, de passer en mode vibreur, etc., etc., le serveur MQTT est grand ouvert sur Internet, donc vous pouvez suivre des milliers de téléphones Android et leurs propriétaires, et savoir en temps réel, hein, à la seconde près, où ils sont, où ils se déplacent.
Alors, IFT, pour les gens qui connaissent pas, c'est If This Then That. C'est un service d'automatisation en ligne qui permet de relier des différentes API entre elles. Par exemple, si mon téléphone est dans telle zone, alors tu vas parler à mon API domotique pour allumer la lumière ou des choses comme ça.
Exactement, voilà. Autre exemple grand public qui est amusant, parce que maintenant on est à la mode du tout connecté, le réveil connecté. Vous avez des réveils sur lesquels vous pouvez laisser des messages à votre époux, à vos enfants, etc. quand ils se réveillent. Est-ce que tu peux aller chercher du pain? Est-ce que tu peux aller chercher les enfants à l'école? Faire les courses, etc., etc. Là encore, ce fabricant a trouvé ça bien de connecter tous ses réveils à un serveur MQTT qui est grand ouvert, sans authentification sur Internet. Et donc, vous pouvez lire l'ensemble des messages que les gens mettre sur leur réveil connecté, donc des choses assez personnelles, surtout pour un équipement qui est proche d'un lit, on va dire, et pousser des messages, envoyer des messages au nom des utilisateurs en usurpant leur identité très facilement. Et de cette façon-là, on a trouvé énormément d'informations à caractère personnel sur MQTT. Donc ça, c'est True Story, donc des logins, des adresses IP, des adresses MAC, des noms et prénoms de personnes, des numéros de téléphone, des adresses email, des géolocalisations de personnes. Il y a quelques appareils médicaux qui sont reliés en MQTT aussi. On voit des tensiomètres, on voit des glucomètres, on voit des électrocardiogrammes qui sont connectés en MQTT.
Non, ça sont des appareils grand public qui se donnent une composante médicale. Ce ne sont pas des appareils biomédicaux. Alors, un appareil biomédical est soumis à une législation parfaitement précise, à une homologation par des institutions. Donc là, c'est des cardiomètres, des tensiomètres, de tout ce que tu veux, qui sont du grand public et qui ne sont pas des appareils biomédicaux.
Alors je me suis fortement posé la question au vu de certains exemples. Je pourrais te communiquer en privé le type d'informations qu'on trouve. Je suis pas certain pour certains parce qu'il y a marqué nom de patient. Alors l'appareil grand public qui emploie le mot patient et qui regroupe 4 ou 5 données médicales différentes, j'ai un peu de mal à le voir. Mais en France.
Ah oui, non, il y a un problème.
Oui, c'est un problème.
Mais quand tu dis « on », c'est une étude qui a été réalisée dans quel cadre ?
Ah, c'est une étude que j'ai faite dans le cadre de mes recherches chez Digital Security. On fait des études sur les protocoles IoT, sur les nouvelles menaces, donc c'est quelque chose qu'on avait choisi d'identifier.
Bon, t'es probablement tombé sur des honeypot avec des fausses données médicales, non ?
Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on tombe sur pas mal de serveurs qui sont chez les grands, chez les GAFA, on va dire, chez 3 des 4 GAFA. Et quand on fait un oui sur ces adresses IP-là, on voit que ça appartient au laboratoire des GAFA. Donc, les laboratoires des GAFA sont très friands de serveurs MQTT. Et on voit tout un tas de choses passer. Typiquement des téléphones, des smartphones ou des tablettes qui sont connectés en MQTT avec des inclinomètres, et on voit en temps réel comment les équipements sont orientés. On peut même voir quasiment quelles sont les touches qui sont tapées sur les claviers virtuels, tellement la précision des inclinomètres est intéressante.
Et ils font ça pour un futur usage dans l'espionnage de leurs utilisateurs, ou ils se rendent pas compte?
Non, je pense qu'on est vraiment souvent sur des bacs à sable de prototypage, avec des informations quand même qui sont relativement sensibles et qui sont envoyées en temps réel en se disant on va développer notre solution en utilisant un serveur MQTT sur un cloud public. Et puis quand on le passera pour le grand public, soit on le laissera sur un cloud public mais qui est à nous, pas authentifié ou avec le même login mot de passe pour tout le monde, soit on fera un peu de sécurité si on a le temps.
Et tu trouves aussi par hasard des équipements qui manipulent de l'argent, je sais pas, des bornes de paiement, des caisses, des distributeurs, des choses comme ça, ou...
Ah ouais, tout à fait. Alors pour les petits exemples rigolos, d'autres exemples rigolos, on a trouvé plusieurs caisses enregistreuses au Royaume-Uni. Et c'est des caisses enregistreuses à écran sur lesquelles en fait on envoie en JSON le positionnement et l'intitulé des boutons sur l'écran de la caisse enregistreuse. Donc on peut changer les intitulés des boutons, donc inverser les plats ou les consommations. Et ce qui est rigolo, c'est quand on se connecte à ces caisses enregistreuses en MQTT, elles nous envoient d'office son login et mot de passe. Et on a pu constater que les mots de passe étaient les mots de passe par défaut, puisque très souvent, le code PIN de la machine, c'était 0000. Voilà. Donc, au niveau des caisses enregistreuses, il y a des terminaux de paiement, effectivement, en Grande-Bretagne, qu'on a identifiés, qui utilisaient MQTT. Autre chose, il y a des flux de transactions financières sur des places de marché Bitcoin, qui transitent en MQTT. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des flux, en fait, avant qu'ils rentrent dans le carnet d'ordre. Donc, ce sont des flux incoming, hein, entrant sur la place de marché, ce qui fait qu'il est possible du coup de les manipuler, d'envoyer des faux ordres en MQTT pour influencer le cours, qui correspondent pas à des ordres réels, mais qui seront affichés dans le carnet d'ordres.
Est-ce que tu peux supprimer un événement avant qu'il ait été délivré, ou est-ce qu'il y a une garantie de délivrabilité dans le protocole?
Alors c'est une question intéressante, il y a plusieurs niveaux de qualité de service, il y a trois niveaux différents. Donc ça dépend, c'est le client qui choisit soit de faire du best effort, soit de recevoir au moins une fois le message, auquel cas il peut le recevoir éventuellement plusieurs fois. S'il veut y avoir on peut choisir un accusé de réception aussi. Le serveur peut demander un accusé au client qui lui remettra systématiquement un accusé de réception. Donc il y a différents niveaux de qualité de service, mais ça c'est la discrétion du client uniquement. À la connexion, on va choisir son niveau de qualité de service et éventuellement le niveau de redondance ou de non-redondance. S'il faut dropper les messages, s'il y en a trop par exemple, c'est aussi une possibilité du protocole.
Mais est-ce que vous avez rencontré des cas, surtout sur les serveurs publics où il y a des gens qui développent, où ils avaient développé leur propre couche de sécurité par-dessus la messagerie?
Ça arrive, mais souvent c'est involontaire. Je prends un exemple. Il y a un opérateur asiatique, hein, LoRaWAN, où tout son cœur de réseau LoRaWAN passe en MQTT. Donc c'est pas des serveurs publics, mais c'est des serveurs qui sont publiquement accessibles. Donc les messages LoRa, hein, pour rappel, ce sont des petits messages radio qui sont échangés par des millions de périphériques sans fil, hein, à basse consommation, longue portée. Et quand on se connecte donc sur cette adresse IP sans la moindre authentification, sans le moindre chiffrement, hein, c'est vraiment le port TCP est ouvert, on commence à recevoir, hein, des messages qui sont poussés par le serveur, et on reçoit en temps réel, bah, les messages LoRaWAN de plusieurs millions de périphériques, parce que là on est au niveau national, et les messages LoRa transitent chiffrés. Mais les métadonnées, elles, transitent en clair. Donc on voit absolument qui discute, hein, mais on ne voit pas le contenu du message, parce que le contenu du message, lui, est chiffré en AES, mais ça, c'est le protocole LoRaWAN qui veut ça.
Bien conçu.
Alors, d'autres petites choses rigolotes qu'on a pu voir, il y a des taxis qui sont suivis en direct en MQTT. Alors, maintenant sur son smartphone on peut suivre son VTC, hein, quand on commande un VTC dans les grandes villes françaises, mais en fait on se rend compte qu'à l'étranger ils ont à peu près le même genre de système, sauf que ce sont sur des taxis et pas des VTC, et que tout est accessible en MQTT. Donc on voit les courses de taxi en temps réel en Lituanie par exemple, et en République tchèque, à Prague et dans ses environs, mais là on voit des données personnelles, puisqu'on voit le nom des clients qui sont pris dans les taxis. On voit leur adresse leur adresse d'origine et leur adresse de destination, et on voit en temps réel la course du taxi qui est envoyée, donc les positions GPS des véhicules qui sont envoyés avec les commandes qui sont faites par les clients.
Non, mais ça c'est parce que les serveurs MQTT sont ouverts, ça c'est pas du LoRaWAN ça.
Oui, oui, bien sûr. Ça, on est toujours sur du MQTT. Voilà. Je citais d'autres exemples. Il y a beaucoup de trackers GPS qui fonctionnent aussi en MQTT. On a trouvé un propriétaire de Ferrari en Iran qui a mis un tracker GPS sur sa voiture. Et donc, on peut suivre quand il va se balader. Évidemment, ça peut...
Oui, mais c'est pour repérer les voleurs si ça fait voler.
Oui, éventuellement, mais il aurait pu mettre ça sur un serveur à lui avec authentification. Là, en l'occurrence, c'est sur un serveur MQTT public.
Bah, écoute, en Iran, de toute façon...
on a trouvé des bots Twitter et Instagram aussi qui discutent en MQTT. C'est assez intéressant. On peut leur envoyer des sujets Twitter ou des personnes Twitter à suivre. Donc c'est aussi un moyen peut-être de faire des attaques par déni de service sur ce genre de service en ligne. On a trouvé des salons de discussion
Jabber.
Pardon ?
Ou de gagner des followers.
Oui, ou de gagner des followers, tout à fait. On a trouvé des salons de discussion en Iran et en Chine, hein, les salons de discussion de Jabber, où là, c'est carrément XMPP hein, qui est passé sur MQTT. Et on voit le flux XML avec les noms et prénoms des gens, leur numéro de téléphone, et puis leur discussion en temps réel, et c'est du XMPP. On a trouvé des usines connectées.
Non, mais là, on comprend pas, là. À l'heure de Signal, WhatsApp et autres, à quoi ça leur sert d'avoir fait ça? Il y a un truc, parce qu'en Iran, en Chine, ça leur permet d'échapper à une surveillance? Parce que, franchement, faut qu'il y ait une raison d'avoir fait ça.
Alors, je pense plutôt, c'est pas vraiment pour échapper à une surveillance, je pense plutôt que ce sont des services qui se sont mis volontairement sur écoute, ou qui ont fourni des moyens d'écoute plus faciles, et donc qui ont relayé vers des serveurs MQTT les discussions en temps réel. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir.
Faut pas oublier qu'il y a une floraison des applis sur téléphone mobile qui sont sectorielles d'une communauté ou d'une autre, qui fleurissent, qui sont développées assez rapidement. Et le développeur a pris le premier protocole sur lequel il a lu la doc. Hein.
S'il a lu la doc.
Je suis entièrement d'accord avec ça.
S'il a lu la doc.
Dans les
si ça marche, choses, il a lu
les specs
minimum.
Rapidement et voilà.
Il a pompé un source sur Internet.
Sur Stack Overflow.
Dans les autres choses rigolotes qu'on a pu voir, des smart factories, donc des usines connectées, dans lesquelles on a les relevés de taux de CO2, de particules fines, hein, de température et d'humidité, des détecteurs à incendie aussi qui sont dans les différents locaux de l'usine. On a trouvé des aspirateurs connectés, vous connaissez les aspirateurs autonomes là qui se baladent et qui tournent tout seuls dès qu'ils subissent un choc, hein. Et qui parcourent les locaux. Ben en fait, ils sont connectés pour certains en MQTT. On peut suivre leur progression, savoir combien de parts hein, des locaux ils ont nettoyés, quel est leur niveau de batterie, et puis leur envoyer des instructions de retourner à la base pour se recharger ou de continuer à passer dans telle ou telle pièce. Donc il y a le nom des pièces à chaque fois. On voit salon, premier étage, etc. etc.
Non, ben, enfin là, c'est pas possible. C'est même plus de l'incompétence crasse. Là, c'est volontaire.
Donc ça, je sais pas comment ces aspirateurs connectés se sont retrouvés sur MQTT, c'est assez amusant, effectivement, rien que trouver l'explication peut être relativement intéressant intellectuellement. On a c'est des smart meters, donc des compteurs électriques connectés hein, de certaines marques, où là on peut lire le relevé de consommation, mais aussi falsifier hein, la consommation électrique de certains clients, puisqu'on... On a l'ampérage, le voltage et puis la consommation qui est envoyée en temps réel hein, sur ces compteurs électriques. Et dernier petit exemple amusant, on a des systèmes véhiculaires embarqués, donc ce qu'on appelle des OBU. Donc des systèmes qu'on met dans les camions ou les voitures qui discutent avec les équipements de bordure de route. Hein. Qui permettent de faire, c'est le système qui était utilisé, enfin qui devait être utilisé en France pour faire du suivi de camions pour le calcul de l'écotaxe.
Et pour le transport de 70 kilos de lingots d'or, c'est ça, non aussi?
Ça s'appelle des OBU, donc des équipements qui vont discuter avec des équipements de bordure de route pour faire le suivi du kilométrage hein, des véhicules ou leur suivi en temps réel, savoir sur quelle portion ils empruntent. Et ça, c'était en Jamaïque. Hein. Donc, on a trouvé des OBU en Jamaïque qui discutent en MQTT.
T'as cité les compteurs électriques, hein. Précisons, c'est pas en France.
Alors, si, c'est en France, mais ce sont pas des compteurs électriques grand public.
C'est pas Linky, quoi.
Si ça répond à ta question.
Oui, non, mais c'est pour rassurer les auditeurs, là.
Ce sont des compteurs électriques industriels, hein, de sites industriels.
Ah oui, à l'intérieur d'un site industriel pour mesurer la consommation de telle cuve, de tel appareil, de tel moteur.
C'est ça.
Ok. Donc là, on retombe dans ce que tu as cité, du fait que l'usine 4.0, hein, la Smart Factory, c'est pas secure du tout.
En tout cas, sur la partie MQTT, non, ça laisse un peu à désirer. Du fait que le protocole soit pas prévu avec un grand niveau de sécurité, notamment en ce qui est ségrégation lecture-écriture sur les flux, comme on l'a vu, et ce qui est ségrégation au niveau de l'authentification, qui est noire ou blanche.
Mais ça n'a pas été conçu pour ça. C'est-à-dire que c'est un détournement du protocole.
Renaud, est-ce qu'il y a d'autres problématiques?
L'authentification, la ségrégation, du coup, qui amène à des risques d'usurpation. Et puis l'autre problématique, elle est très simple, mais au final, elle est pas si grave à côté. C'est qu'il y a très peu de SSL hein, sur MQTT. Donc ça pose pas de problème, on va dire, sur Internet, parce que là c'est une attaque un peu plus ciblée. Mais par contre, sur les clients, qu'ils soient publishers ou consommateurs d'informations, sur les réseaux de ces clients-là, bah, évidemment, tout va pouvoir être interceptable très facilement par Man in the Middle, et donc on va pouvoir lire les flux ou écrire les flux très facilement de part et d'autre. Donc du transport.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un petit peu de sécurité dans tout ça?
Bah rien, c'est un échec.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une sécurisation qui est possible à trois niveaux. Donc au niveau réseau, effectivement, passer par exemple par un VPN, ça va apporter un peu de sécurité. Tout du moins côté consommateur, hein, si le serveur ne supporte pas MQTTS, donc la version SSL de MQTT. Au niveau transport, effectivement, essayer d'activer SSL TLS, mais ça dépend de ce qui est côté serveur, hein, c'est pas le client qui va pouvoir le choisir. Et au niveau applicatif, en fait, ça sera au prix souvent d'une dégradation de la compatibilité avec la norme, mais il est possible d'installer des greffons, hein, dans ces serveurs MQTT, de manière à faire du cloisonnement, de manière à créer des utilisateurs avec des groupes, hein, et surtout de cloisonner les sujets assez finement, et même d'interdire les jokers, hein, les jokers comme plus ou dièse, yes, qui permettent de découvrir les sujets auxquels on n'est pas censé avoir accès, et de s'y abonner, du coup. Donc c'est du cloisonnement au niveau applicatif, ça passe par l'activation de greffons, hein, dans les serveurs MQTT, mais au prix d'une rupture un peu avec la compatibilité et la norme qui ne prévoit pas ce genre de cloisonnement ou de refus de joker MQTT, par exemple.
Et les GAFAM, puisque Microsoft aussi lance son offre, ils ont tous des offres sur l'IoT. Là, je suis sur la page d'Amazon, par exemple, qui propose du MQTT 3.1. T'as pas vraiment la main sur ces serveurs. Tu peux les configurer de manière sécurisée ou t'es obligé de prendre ce qui sort de la boîte? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de fabricants d'objets connectés qui s'amusent à gérer leur propre infrastructure de
serveurs. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'ils utilisent souvent des infrastructures mutualisées, avec souvent d'autres services, et c'est pour ça qu'il y a une certaine ouverture à tous les vents. Sur les serveurs MQTT, sur certains services payants et professionels, hein, dont un que j'ai cité tout au début, il est possible de personnaliser sa sécurité, d'avoir déjà du MQTT dédié, et de personnaliser sa sécurité, c'est-à-dire d'activer SSL, d'activer l'authentification obligatoire, et d'activer une ségrégation entre les publishers et les consommateurs d'informations, typiquement. Mais voilà, c'est que sur des services pro, en y mettant le prix. Parce que c'est vrai que les Amazon ou les Microsoft ont pas ce niveau de service.
Ça fait froid dans le dos, non?
C'est une bonne nouvelle. Quand les objets se retourneront contre nous, on pourra éviter le scénario Terminator en les éteignant depuis Internet.
Sauf que l'intelligence artificielle de Google aura déjà corrigé la faille et créé un nouveau protocole que personne ne comprend.
Puis la machine qui sait en temps réel où tu es avec ton téléphone, je te conseille pas de l'attaquer.
C'est pas faux.
Récemment, on avait quand même eu le cas de Dean, hein, qui s'est fait attaquer par un botnet de caméra, ce qui était encore impensable il y a quelques années, mais ça a dépassé les plus folles prédictions. Et je pense que là, ce n'est que le début, malheureusement.
Non, mais je pense qu'il faut quand même recommander à tous ceux qui développent, parce que c'est, à mon avis, c'est beaucoup de nouveaux produits, comme tu l'as dit, quand tout on veut, bah, qui commencent sur des serveurs publics, puis qui après évoluent. C'est de ne pas faire confiance à un protocole lui-même s'il n'y a pas de fonction d'authentification forte, c'est-à-dire aujourd'hui cryptographique, et si ce n'est pas le cas, de voir comment, ce qu'ils ont à protéger et comment ils peuvent le protéger. Encapsuler de l'information, il n'y a pas besoin de faire du gros calcul, on peut protéger de l'intégrité en faisant du HMAC, on peut faire du chiffrement avec des algos relativement économes, ça peut se faire même sur des microcontrôleurs aujourd'hui, donc, mais il faut le concevoir.
Tout à fait. Là, je rejoins Christophe. Effectivement, les recettes existent déjà. Hein. On ressasse des problèmes sans arrêt, les mêmes problèmes avec l'IoT qu'au début d'Internet. Les solutions, elles existent déjà. On sait faire de l'authentification proprement, on sait faire des challenges, on sait faire des échanges de clés, on sait faire du chiffrement, y compris effectivement sur des périphériques embarqués à très bas coût, hein, pour faire du chiffrement, un simple XOR. Avec une clé suffisamment variée, un flux de clés suffisamment varié est largement suffisant et consomme rien du tout en termes de ressources. Mais aujourd'hui, c'est trop peu négligé parce que les développeurs d'embarqués n'ont pas de connaissances de sécurité. Et on est, l'IoT est sur une phase ascendante où c'est la course aux parts de marché et donc il faut être le plus vite à prendre le marché, c'est-à-dire on va pas retarder la sortie du produit en rajoutant de la sécurité ou en faisant des études qui seraient pas strictement nécessaires aux fonctions du produit. Donc c'est un peu le parent pauvre, la sécurité sur des nouveaux secteurs, des secteurs montants à cause de ce time to market, hein, de cette course aux parts de marché qui est faite sans cesse par les industriels. Sinon les solutions existent déjà, hein, d'un point de vue sécurité, il y a déjà tous les outils, toutes les primitives qui existent dans des bibliothèques qui sont très souvent en open source. Donc il n'y a absolument rien besoin d'inventer et absolument rien de nouveau pour sécuriser ces IoT à mon sens.
Il faut juste intégrer la sécurité dans son projet.
Ce qu'il faut finalement, c'est un OTR pour les objets.
Oui, il faut intégrer la sécurité dès le début du projet. Il faut que ça soit un besoin, et il faut que ça soit exprimé comme un besoin dans le projet et pas exprimé comme une contrainte ou comme un truc superflu qu'on va rajouter à la fin, comme la cerise sur le gâteau, quoi.
Ouais, alors malheureusement, l'expérience montre que tant qu'il n'y a pas une loi qui te l'impose...
Voilà, donc c'est pour ça que peut-être ça bougera d'un point de vue légal avec la GDPR qui commence à infliger des sanctions financières assez lourdes, notamment aux nouvelles start-up, hein, dans ces secteurs-là, ou aux GAFA, si les données personnelles sont pas correctement protégées ou inutilement exposées.
Enfin, la GDPR, c'est une loi, elle inflige des sanctions à personne en particulier. Hein. Elle inflige des sanctions à ceux qui la violent.
Quand les sanctions seront applicables, ce qui n'est pas encore le cas.
Après, je sais pas ce qui est le pire, c'est de violer la loi et de se faire attraper, ou plutôt de se faire pirater et que tout son réseau soit compromis, ou tout s'écroule, ou que ce soit utilisé comme effet de levier pour faire autre chose. Je sais pas ce qui est le pire. Hein.
La question, c'est est-ce que ces gens-là l'ont fait par défaut d'information, sans savoir, sans avoir réfléchi, ou est-ce qu'ils ont été correctement informés des risques? Ils savent que c'est pas sécurisé, qu'il n'y a pas d'authentification, qu'ils peuvent se faire pirater. Et ils disent, non, mais attendez, les informations que je manipule sont anecdotiques, ne peuvent intéresser personne, et je préfère prendre le risque en toute connaissance de cause. S'ils ont pris le risque, ils ont fait leur choix. S'ils ont fait un choix par défaut sans réfléchir,
la personne qui a la démarche que tu écris, déjà, c'est la minorité.
Ah non, un chef d'entreprise, il gère des risques au quotidien. Et donc, toutes ces startups ont des chefs d'entreprise qui ont potentiellement pris volontairement des risques pour aller plus vite.
Je suis pas sûr qu'ils aient conscience de ces risques.
Ouais, je suis pas persuadé que les développeurs et chefs de projet ou architectes, hein, de solutions IoT qui ont choisi MQTT ou qui se l'ont vu imposer pour X raisons aient conscience de tous les risques qui sont liés à l'usage du protocole et connaissent bien les manières de durcir la sécurité quand ils utilisent ça.
Et encore une fois, hein, je pense que tu dis que MQTT c'est pas mal, c'est l'utilisation qui en est faite, enfin l'utilisation dans un cadre non sécurisé.
Oui, il y a des façons de sécuriser. La norme est pas forcément bien fichue, mais au niveau implémentation, il existe des implémentations qui sont sécurisées. Encore faut-il en avoir conscience et activer ces options de sécurité qui sont pas des options présentes par défaut sur des clouds ou sur des implémentations classiques.
Bon, eh bien, ça me semble être une excellente conclusion. Hervé, Vlad, Nico, Christophe, vous souhaitez ajouter quelque chose?
On va tous mourir.
C'est encore des API qu'il nous faut.
Les IoT vont
la sécurité est un échec, Nicolas.
J'ai déjà dit, mais bon, ça fait pas
mal. Non, mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut tenter d'informer la communauté des développeurs, des architectes d'objets connectés. C'est un travail de longue haleine. Peut-être un jour, il y aura un incident qui les réveillera, que des gens... faisait des choses correctement avec de la sécurité. Donc, à chacun de choisir les bons protocoles, les bonnes options et de faire les choses correctement et il n'y en aura pas de problème. On profitera des objets connectés en toute sécurité.
Bon, eh bien Renaud, un grand merci pour ta participation à cet épisode.
Merci à toute l'équipe.
En complément de cet épisode, nous mettrons sur le site web le lien vers une présentation que tu as réalisée à ce sujet. Et dans un tout autre domaine, je rappelle que tu avais participé à un épisode sur l'informatique quantique. Donc les auditeurs qui s'intéressent à ce sujet pourront trouver cet épisode sur notre site web. Vlad ?
Oui ?
C'est l'heure de la Minute Fail.
Alors, je rappelle le principe de la Minute Fail, qui est de présenter un incident passé de sécurité en prenant du recul avec humour. Et le principe n'est pas du tout d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Donc, il s'agit d'une entreprise disposant d'une bonne maturité sécurité, avec de la sécurité périmétrique, de la défense en profondeur, un SOC, un CERT, et qui fait régulièrement des tests de détection d'incidents de sécurité et de réponse à incidents. Donc cette fois-ci, ils font appel à un cabinet spécialisé pour réaliser un phishing. L'objectif est de simuler une attaque vraiment évoluée, approchant ce que pourrait être une attaque d'une agence gouvernementale. Donc utilisation de 0D pour l'exécution de code, charge utile uniquement en mémoire, et unique par utilisateur, ne pouvant être téléchargée qu'une seule fois, etc. etc. Donc la réunion de lancement de l'attaque se fait dans les locaux du cabinet mandaté pour ce phishing. Donc se trouve là le RSSI du client avec son adjoint, quelques huiles, et le go est donné et l'attaque est lancée sur une vingtaine d'employés. Et donc tout le monde quitte joyeusement la réunion pour rejoindre les locaux de l'entreprise pour aller voir comment ça se passe pendant l'exercice. Au même moment, dans la ville où se déroulent les faits, il y a une pollution atmosphérique qui limite la circulation motorisée. Il y a une circulation alternée. Et donc tout ce petit monde décide tranquillement de prendre finalement les transports en commun souterrains, car les locaux de l'entreprise se trouvent à 30 minutes en métro, enfin en transport en commun. Mais comme nous sommes dans la minute fail, il y a un problème technique avec les transports en commun qui fait que tout le monde est bloqué dans un tunnel à peu près à 200 mètres de la destination, mais sans accès GSM. Et alors côté CERT SOC, l'attaque est détectée grâce à un utilisateur bien sensibilisé, c'est plutôt une bonne chose, mais la moitié des utilisateurs ciblés ont cliqué, panique, le RSI et les responsables sont injoignables, les premières analyses montrent que l'attaque est vraiment très évoluée, en plus des erreurs de diagnostic donnent l'impression que l'ennemi a pris le contrôle total du système d'information. En fait, l'attaque faisait télécharger le vrai catalogue du CE de l'entreprise, ce qui a donné cette fausse impression, et donc des centaines d'employés légitimes au même moment avaient téléchargé le catalogue. Donc ça a créé beaucoup de faux positifs. Donc méga panique, il faut couper tous les accès internet malgré les pertes financières, il faut arrêter le business, il faut appeler l'ANSSI à la rescousse, au secours, et miracle de Noël. à ce moment-là, juste avant toutes ces actions-là, les transports en commun se remettent à tomber en marche. Le RSSI et les autres arrivent à ce moment-là et rassurent les équipes en expliquant que ce n'était qu'un test. Ouf.
Bon, bah pour le même prix, ils ont eu un exercice de gestion de crise.
Et les conducteurs dans les transports en commun, ils étaient aussi en test ?
Ça, je ne sais pas.
Fail.
Bon, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.